Hello tout le monde, c'est le retour de Perpa ma page, le podcast où l'on parle coup de cœur littéraire avec des artistes que vous connaissez ou que vous allez découvrir. Je suis Edouard Bonamour et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce 13e épisode. Aujourd'hui, mon invité est un poète des temps modernes. À 26 ans, Félix Radu est également comédien, chroniqueur et même influenceur. Il est en ce moment même au théâtre dans toute la France, en Belgique et en Suisse, avec un one-man show qu'il a écrit quand il avait 15 ans seulement et qui s'appelle « Les mots s'improsent ». Un spectacle entre théâtre et humour dans lequel il convoque aussi bien Camus, Shakespeare ou encore Saint-Exupéry, dont on va d'ailleurs parler dans cet épisode. Avec lui, ses auteurs sortent de leur torpeur et deviennent tour à tour drôles, émouvants et surtout accessibles à tous. Je suis très heureux de compter Félix parmi mes invités, alors perds pas ma page, c'est parti. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Salut Félix.
Bonjour.
Je suis content de te rencontrer. Tu sais que dans le milieu un petit peu des influenceurs livres, etc., tu es quand même une star. Tu le sais ça ou pas?
Dans le milieu des influenceurs de livres, trop bien. Ça me fait plaisir. Pourquoi tu dis ça?
Bah non, mais c'est vrai parce que je me suis lancé moi il y a peu de temps sur Instagram où j'ai créé mon compte autour de la littérature, etc.
Bravo.
Et un des premiers comptes que j'ai suivi, c'était le tien, parce que tout ce que tu fais sur la littérature, c'est vachement bien. Et ouais, donc du coup, t'es un peu, tu sais, la communauté Bookstagram.
Je la connais pas très bien, mais je la dévore doucement. Parce que j'étais pas très réseau à la base et donc je découvre doucement le milieu Instagram. Et je trouve ça assez charmant, ouais, c'est bien.
Je voulais juste te rappeler d'abord en deux mots, quand même le principe du podcast pour être sûr que tout est clair.
Rappelle-moi.
Tu m'as donné 4 titres de livres.
Oui.
J'en ai 3. J'ai pas trouvé le Camus, malheureusement, là, un peu à l'arrache.
Ah, c'est ce que tu es en train de me dire. Je dis,
ouais,
non,
ouais, le mythe de Sisyphe, je l'ai pas pu le trouver. Mais en tout cas, tu m'as donné 4 titres. 4 titres qui t'ont particulièrement marqué et qui te définissent un petit peu. Et on va en parler sans faire une étude de texte. C'est vraiment juste que tu m'expliques.
Non, mais il y a
des gens qui ont peur, tu sais, qui me disent, ah, non, j'ai pas assez révisé, je sais pas comment je vais en parler.
Oh,
tout. Non, l'idée, c'est vraiment. Que tu nous donnes envie de les lire et qu'on en parle, qu'on fasse plus connaissance avec toi aussi, du coup.
Ok, avec plaisir.
Tu veux commencer par lequel?
Waouh, alors là, je vais les choisir. Pour le coup, je les ai attaqués un peu plus ou moins en même temps. C'est ce pourquoi je les ai choisis, parce que c'est vraiment les briques élémentaires de ma personne, quoi.
Ok, et ben, je te propose qu'on commence par Cyrano de Bergerac.
Ok, si tu veux. Cyrano de Bergerac, pour moi, c'est la meilleure pièce qui a jamais été écrite au monde.
Ok.
Et je pense qu'il ne faut pas mourir sans l'avoir lu.
Ok.
Et clairement, Cyrano de Bergerac, je crois que c'est mon modèle de vie, ad vitam aeternam. Je pense que c'est l'une des figures qui me tire le plus vers le haut depuis que j'ai 15-16 ans, quoi.
Alors juste pour... Au cas où, s'il y a des auditeurs qui n'ont pas lu, oui, et qui ne connaissent pas bien, on ne sait pas. Est-ce que tu saurais me le résumer?
Bien sûr, le résumer pour toutes les personnes qui ne sauraient pas. En gros, Cyrano, c'est une pièce qui a été écrite par un charmant gars qui s'appelle Edmond Rostand. C'est une pièce en alexandrin. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, en fait, l'alexandrin n'était plus du tout à la mode à l'époque. Et donc, bah, il arrivait un peu comme un extraterrestre.
Quand ça a été écrit fin 19e.
Mmh. Ouais. Et donc, tout le monde, enfin, personne n'y croyait, quoi.
C'est vrai que quand elle a été écrite en 1897, Cyrano de Bergerac a les caractéristiques de la pièce ringarde par excellence. Un héros illustre inconnu, une pièce en vers alors que la mode à l'époque c'était les pièces en prose, et elle est beaucoup trop longue avec 5 actes. Bref, Cyrano cumule les tares avant même la première représentation et personne n'y croit. Pourtant, quand elle est jouée pour la première fois au théâtre de la Porte Saint-Martin, un théâtre qui existe encore aujourd'hui, c'est un triomphe immédiat. Et aujourd'hui, c'est la pièce la plus jouée dans le monde.
Et donc, Cyrano est un homme avec un très long nez, en tout cas un nez
protubérant,
proéminent. Et il est très amoureux de sa cousine. Ils avaient un délire avec les cousines à l'époque.
J'ai envie de dire.
Wow, chacun sait.
Est-ce que c'est pour ça que tu l'as choisi? Là, ça va devenir chelou, par contre.
Je viens de Belgique, mais c'est pas pour ça. Et donc, il est très amoureux de Roxane. Et il s'avère qu'en fait, un jeune homme qui s'appelle Christian est lui aussi amoureux de Roxane. Et il va s'en suivre l'intrigue. C'est-à-dire que Cyrano va proposer, comme il se sent moche, comme il se trouve pas assez beau pour la draguer, il va demander à Christian d'être le corps et lui l'âme. Donc, il va écrire pour Christian pour que Roxane tombe amoureuse. Donc c'est une manière pour lui de la séduire en se sentant beau. Mmh. Seulement en fait, le stratagème va tellement bien fonctionner qu'elle va tomber amoureuse de Christian Et Cyrano va se rendre compte en fait qu'il lui manque le principal, c'est-à-dire il en parle dans la pièce, il dit voilà que j'ai fait l'effort et que quelqu'un d'autre va cueillir pour moi le baiser. Et je trouve en fait le personnage charmant dans son échec. Moi j'aime bien les héros qui ratent, parce que je considère en être un peu un. Je rate énormément de choses et je trouve que Cyrano est le plus sublime de tous quoi.
C'est un loser magnifique.
Un loser magnifique. Mais je trouve qu'on est une génération pour le coup. On est une génération de losers magnifiques. Tous les modèles imminents aujourd'hui, tu vois, quand tu regardes Orelsan, etc., c'est des artistes qui sont des losers magnifiques, quoi. Ils ont ce truc de je rate, mais je rate de manière sublime, quoi. Et Cyrano, pour le coup, je pense que c'est du coup le modèle que j'aime le plus au monde. Parce qu'il a. Il le dit aussi dans ses monologues. Il dit montez pas bien haut, peut-être, mais montez tout seul, quoi. Mmh. Et il y a ce truc que j'ai toujours. J'ai gardé ça en tête quand j'avais 15 ans. Je me suis dit, si un jour je deviens un homme, si un jour je deviens adulte, je veux être un adulte droit, grand, qui rêve à plus haut que lui et qui jamais ne marche sur le plus petit ou qui jamais ne bouscule pour pouvoir faire sa place. Je veux m'imposer seulement par ma plume et par mes idées et par mon talent et par mon envie. Et je trouve que Cyrano incarne bien ça.
Ah oui, donc c'est vraiment le personnage de Cyrano en lui-même qui t'a marqué à l'époque quand tu l'as lu. Donc t'avais 15 ans quand tu l'as découvert, c'est ça?
Je me rappelle plus exactement l'âge que j'avais, mais je trouve en fait la pièce en elle-même est un symbole très fort de la langue française, du théâtre. C'est un instant de génie, c'est sublime quand c'est bien monté, mais le personnage de Cyrano de Bergerac qui a été inventé par Edmond est très clairement un de mes modèles de vie, oui. Si je pouvais me tirer aussi haut que pour moi il s'est tiré, mourir la main sur l'épée en train de frapper le vent en disant non, non, genre je le ferai quoi. Pour moi c'est ça la vie quoi, c'est avoir son épée et dire non, non, jamais vous ne mourrez. Douleur, chagrin, tristesse, peur.
C'est vrai qu'elle est grandiose cette pièce. Tu l'as découvert comment toi? Tu t'en souviens?
Je l'ai lu.
Tu l'as lu, ouais.
Il y a eu un moment où je me suis un peu perdu dans les bouquins par curiosité pure. Hein. J'ai commencé Victor Hugo, puis je me suis perdu et je suis tombé sur Cyrano. Je comprenais pas tout, je comprenais pas ce que c'était un alexandrin. Mais je trouvais que c'était extrêmement bien écrit, rythmé, ça rimait. Et enfin, j'ai trouvé ça génial, quoi. Et je me suis dit, il faut être un génie pour l'écrire.
C'est ce qui t'a donné envie aussi de jouer toi aussi un peu avec les mots, avec la langue, ce que tu fais un peu dans ton spectacle.
Je ne sais pas si ça m'a donné l'envie, parce que je pense que l'envie, elle naît un peu avec nous. Je pense qu'on ne fait pas les milieux artistiques par choix, parce que quand j'étais petit, il y a plein de fois où j'aurais aimé être attiré par autre chose que par les mots. Donc je pense pas que ça m'a communiqué l'envie, mais ça m'a communiqué de la nourriture pour nourrir cette envie, quoi.
Ouais.
Je me suis dit, ok, il y a des gens qui, avant moi, ont reçu ce vertige-là, ont aimé ces mots-là, ont voulu écrire et qui ont été apaisés par la poésie. Et je me suis dit, il faut que je les lise, il faut que je découvre mes potes, quoi. Pour moi, c'est son Edmond Rostand, on aurait été ultra copains, quoi. Ou alors les pires ennemis, les meilleurs ennemis. On aurait été ultra rivaux ou ultra potes. Mais donc ouais, je pense que les lire, en tout cas, ça a nourri quelque chose et ça m'a donné une légitimité, une envie de surpasser, de prendre, de casser, de recommencer, de rejoindre la famille, quoi. Plus qu'une envie d'écrire. L'envie, je l'avais déjà.
Est-ce qu'il y a un passage dans Cyrano qui te... Parce qu'il y a des moments qui sont mythiques dans cette pièce. Il y a la scène du balcon, il y a la tirade du nez, évidemment, il y en a plein. Est-ce que toi, il y en a une qui te parle plus qu'une autre?
Ah bah, elles sont toutes sublimes. En fait, c'est ça qui est incroyable avec Cyrano, c'est vraiment qu'aucune scène n'est à jeter. Effectivement, la scène du balcon, je trouve qu'elle est très sous-évaluée par rapport à celle de Roméo et Juliette, par exemple. Ouais. Pour moi, Cyrano, la scène du balcon est mille fois mieux que celle de Roméo et Juliette. Tellement plus... Mais une scène en particulier, tout le monde, je pense que n'importe quel artiste te citera la tirade des non-merci, qui est incroyable, mais j'aime beaucoup aussi la fin, quand il lit la lettre qu'il a écrite, et qu'en gros il fait trop noir que pour qu'il la lise,
ouais.
Et il continue de parler, et Roxane fait « mais comment vous la lisez cette lettre ?» Et puis il fait trop sombre que pour que vous la lisiez, et le mec continue parce qu'il la connaît de mémoire. Enfin, je trouve la mort de Cyrano sublime.
Elle est dingue, ouais. Il faut voir le film aussi avec Depardieu qui est incroyable.
Qui ne restera jamais notre Cyrano, même s'il s'évertue à essayer de me faire oublier cette idée.
non, mais on va garder cette image en tête là, c'est très bien. Cyrano, Gérard Depardieu en Cyrano, c'est l'image la plus belle. Ok, cool, très bien. On passe au roman suivant.
Ah, avec plaisir, avec plaisir. Tu veux qu'on parle de quoi? Tu veux qu'on parle de, des confessions de, du Petit Prince en italien?
Allez, on parle du Petit Prince.
On parle du Petit Prince.
Ouais, effectivement, j'ai une version italienne. Et alors, j'ai envie de dire.
Non, moi j'adore, j'adore. En plus, j'ai de la famille en Italie.
C'est vrai.
Oui.
Ouais, moi j'adore l'Italie. Et je me suis dit, tiens, je.
Tu parles italien du coup?
Non, je fais semblant.
Ah,
tu sais, je fais semblant. Je baragouine un peu. Et tout. Mais je me suis dit justement, je vais l'acheter. Et comme c'est, bah voilà, comme c'est mythique. Là, évidemment, moi, je l'ai lu en français. Mais c'est marrant parce que moi, je l'ai lu il y a très longtemps. Je l'ai lu quand j'étais jeune. Je ne l'ai jamais relu en étant adulte. Et en fait, je pense que c'est un conte qui. Et c'est pour ça que ça m'intéresse que tu m'en parles aussi. Mais c'est un conte. Tout le monde le dit, qui peut t'accompagner toute ta vie, qui peut raconter des choses différentes à tous les âges de ta vie. Et donc voilà, ça m'intéresse de savoir pourquoi tu as voulu le mettre dans cette liste.
Bah très clairement, en fait, c'est ce que tu viens de dire. Hein. C'est un livre qui moi m'accompagne depuis longtemps. Quand j'étais petit, on m'a forcé à le lire parce qu'on trouvait ça génial de faire lire un enfant et je ne comprenais rien et j'en avais rien à faire du Petit Prince.
Ouais.
Et je l'ai un peu valdingué, quoi. Je l'ai lu, mais trouvé chiant. D'ailleurs, je précise que c'est le livre le plus traduit après la Bible.
Ouais, ouais.
Y a même des versions Klingon.
Ah ouais, ouais, c'est un truc de dingue. Genre.
En 1943, quand il écrit Le Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry est loin de s'imaginer que son conte initiatique sera traduit dans plus de 300 langues et dialectes et vendu à plus de 200 millions d'exemplaires. Pas mal pour une histoire de rencontre entre un aviateur et un petit garçon au visage d'ange et à la chevelure d'or, tout droit descendu de l'astéroïde B612.
Et donc je l'ai relu quand j'avais, je pense, 18-19 ans. Et je l'ai relu par hasard, il était là, je me suis dit, c'est petit, j'ai 3 heures à tuer. Et en fait, en le lisant, je suis allé de coup de pare-choc, j'ai fait d'accord, ok, cette métaphore est très jolie, puis mais celle-là aussi. Et vraiment, j'ai terminé le livre et j'ai pris 20 minutes dans le canapé à me frotter le front en mode, mais comment est-ce que j'ai pu passer à côté de ça? Comment j'ai pu passer à côté de ce génie? Et effectivement, c'est pas un livre pour enfants, en fait, c'est un livre qui a l'air enfantin, mais c'est terriblement loin de l'être. Et d'ailleurs, en fait, tout est résumé dans la préface qu'il a signée, où il dit « Je dédie ce livre à mon ami Léon, enfin non, à l'enfant qu'il était. » Et donc c'est à la fois pour les adultes-enfants ou pour les enfants-adultes, enfin y a une notion des deux âges, quoi. Et
comment ça se fait que ça t'ait marqué autant?
C'est beau, quoi. C'est harmonieux, enfin... Moi, j'aime bien quand les métaphores ont l'air de couler de source, quand c'est clair, quand c'est harmonieux, c'est le mot. Genre, je sais qu'il y a des passionnés de mathématiques qui aiment les maths parce que c'est harmonieux quand une belle formule est. Et je trouve que c'est un peu mathématique. Enfin, c'est tellement signé que quand il y a le point, tu fais « bah oui, ça devait exister en fait, ça existait, c'est juste qu'il a fait surgir du néant, quoi. » Et toutes les métaphores, il y a sur tous les thèmes, et à chaque fois, tu es « mais c'est... » foutrement intelligent en fait, et tu peux prendre une heure et demie, deux heures à en parler. Et donc je suis tombé amoureux de ce personnage, et puis énormément de gens en fait me comparaient au Petit Prince sans cesse, en disant « ah oui, vous êtes le Petit Prince de l'humour, vous êtes le Petit Prince du seul en scène, le Petit Prince du théâtre ».
C'est flatteur.
Oui, mais comme je n'avais pas relu le Petit Prince, je ne comprenais pas trop, enfin je disais « oui, c'est un gars qui vit sur un astéroïde ». Et en fait en le relisant, j'ai fait « mais c'est tellement un énorme compliment ». Et quand j'ai commencé un peu à faire entendre mon boulot, j'ai été contacté par la Fondation Saint-Exupéry, sans avoir eu aucun contact avec eux. Et ils m'ont dit « Écoutez, on aime beaucoup votre boulot, on trouve qu'il y a une certaine affiliation, ça vous dirait qu'on bosse ensemble ?»
C'est la Fondation pour la Jeunesse, hein, c'est ça où
ils se... ils font en sorte de faire perdurer l'œuvre de Saint-Exupéry au grand complet, quoi. Donc ils essaient de trouver des événements, d'organiser des trucs. Et ils m'ont dit « Ça vous dirait qu'on bosse ensemble sur des vidéos pour expliquer certaines métaphores ?» Donc j'ai fait ça. Puis ils ont dit « Mais en fait, on adore bosser avec vous. » Je dis « Bah, moi aussi, je vous aime. » Et ils ont fait « Ça te dirait d'être représentant de la marque Petit Prince ?» Genre d'être l'ambassadeur Petit Prince. Et j'ai dit « Grave. » Et donc, je suis ambassadeur Petit Prince.
La classe quand même.
Ouais, je suis le premier et le seul. Et donc, on a comme officialisé une sorte d'appartenance qui était sous-jacente depuis des années dans ma vie, quoi. Et c'est un énorme honneur que de porter la marque, le nom, l'œuvre, le personnage, quoi. Je me sens très proche à la fois de Saint-Exupéry et puis du Petit Prince, et je pense qu'il n'y a pas énormément de différence entre les deux. Et bah ouais.
C'est fascinant quand même de se dire que d'arriver à écrire un conte qui va être autant traduit que la Bible. Enfin, quand on y pense, c'est du délire, quoi.
C'est
de se dire que c'est partout dans le monde, il y a des gens qui peuvent se retrouver, qui vont retrouver une image qui va leur correspondre, qui va leur apprendre des choses. Je trouve ça fascinant, c'est incroyable.
C'était un voyageur, hein, Saint-Exupéry. C'était un aviateur assez chevronné, donc je pense qu'il avait cet amour de la pluralité, quoi, et il avait cette notion de l'humain Et ça se ressent fort dans le bouquin. Hein. C'est, ça parle davantage d'humains que d'une quelconque population. Hein. Quand tu regardes, ça parle d'amour, de mort, d'amitié, de travail, de génération, de solitude, de mort. Je l'ai déjà dit, mais je le répète.
Okay. Ouais, parce que c'est sympa, c'est en plus. C'est des thèmes qui sont sympas en plus.
C'est très réjouissant. Mais c'est... Puis effectivement, en fonction de comment tu te sens, tu le lis différemment, tu le ressens différemment. Enfin, c'est un instant de génie, quoi.
Est-ce que toi, quand t'écris, quand tu... Ouais, quand... parce que le spectacle que tu joues en ce moment, je crois que tu l'as écrit pour le coup, t'étais assez jeune, c'est ça ?
J'avais 15-16 ans, ouais.
Ok, et là t'es en train d'écrire ?
J'ai terminé ma pièce et j'avais commencé à écrire le roman. Enfin, j'ai déjà commencé le roman, mais j'ai commencé à écrire le deuxième seul en scène.
Ok. Est-ce qu'il y a des thèmes comme ça dont tu sens que t'as besoin de parler et qui peuvent.
Bah oui, enfin c'est. Mais ce sont les mêmes. Enfin. Ce sont toujours les mêmes, peu importe les livres que tu achètes, ce sera toujours les mêmes moteurs, hein. C'est l'amour, et puis effectivement la solitude, la mort, la famille, le besoin d'être entendu, d'être écouté, de trouver du sens, c'est toujours les mêmes. Après on les habille différemment, et puis on les attrape différemment, mais j'ai des affiliations... Enfin, moi je parle essentiellement d'amour, parce que c'est vraiment, je pense, la question existentielle de ma vie, un peu comme Alfred de Musset, mais on y reviendra.
Musset dans la liste.
Musset est dans la
Musset
liste.
N'est jamais loin.
Mais ce que j'admire chez Antoine de Saint-Exupéry, c'est d'arriver à véhiculer des questions terriblement complexes et terriblement vastes, et de pouvoir philosopher pendant des heures avec des potes à table dans un livre de 30 pages, quoi. Mm. Alors que certains font 600 pages et à la fin, tu fais ouais, voilà, quoi, c'était bien.
Ce que toi, t'arrives à faire justement, cette idée, c'est. J'aime pas trop, je trouve pas ce mot très beau, mais cette vulgarisation, en tout cas de donner accès avec tes mots assez simplement et toujours de manière assez belle à une connaissance, un savoir, sans que ce soit chiant, sans que ce soit qu'on reste hermétique, quoi. Donc, et ça, c'est génial aussi.
Mais ça, je pense que c'est parce que je suis quelqu'un d'assez bête.
Probablement.
Non, mais je suis quelqu'un. Non, mais enfin, je vais m'expliquer. C'est sûr que ça. En fait, dans ma tête, ça paraissait clair. Mais je suis quelqu'un d'assez bête et j'ai besoin qu'on m'explique calmement et sans me prendre de haut. Parce que je suis un peu très sensible. Et par exemple, mon grand-père était un grand intellectuel, mais très hautain. Et il a voulu m'apprendre le latin. Et il a pris 2 heures et puis il s'est levé, il a parlé en italien en pensant que je comprendrais pas. Il a dit, mais ce mec n'ira jamais nulle part, il est con comme un manche. Et ça m'a tellement vexé que j'ai plus jamais appris le latin. Enfin, pour moi, c'était... Et j'ai donc, comme je sais à quel point, quand les choses sont expliquées clairement et avec la vraie volonté de que tu comprennes, de partager un truc et que ce soit réjouissant, eh ben, j'ai envie de le faire avec les autres, quoi. Quand moi, je comprends un truc, je me dis, mais... Faut absolument qu'on le comprenne et j'ai aucune envie que quelqu'un se sente rabaissé par du savoir. Je pense que le savoir doit au contraire, à l'inverse, être pris à hauteur, quoi.
Ouais.
Et même d'ailleurs, je me rends compte en grandissant que plus tu sais, moins tu sais, plus tu lis, moins tu lis. Parce que quand tu lis un livre, tu le termines et il fait référence à 3 bouquins que t'as pas lu, puis t'en lis un autre et puis il fait référence à 4 bouquins que t'as pas lu. Et en fait, plus tu lis, plus tu te rends compte que t'as pas lu, quoi. Plus t'essaies d'apprendre, plus t'es teubé, quoi. Et c'est génial de se rendre compte de sa teubéitude. Et je me rends compte pleinement de ma teubéitude. Et ça me permet de pas devenir un gros con, je crois. Et c'est important pour moi de vulgariser, même si c'est un mot qui effectivement peut paraître pas très joli, mais dans le beau sens du terme.
Ouais.
C'est important de rappeler aux gens qui sont totalement légitimes d'aller au théâtre, d'ouvrir un bouquin, d'aller à une expo. Et que l'art, la littérature, la poésie, bah, c'est terriblement humain, c'est terriblement jeune, c'est terriblement populaire. Et il y a rien de, j'ai vraiment l'image de cultiver qui s'auto-fellationne, quoi. Mais c'est pas ça, ça doit pas ressembler à ça, quoi.
Non mais ouais, parce que
non mais j'ai vraiment l'image ça, des théâtres qui sont oh oui le théâtre, tu vois, mais c'est ça doit pas ressembler à ça. Ça doit pas être des metteurs en scène qui se font plaisir à monter des pièces imbitables. Ça doit être vers l'humain, quoi. Il y a rien de plus humain que l'art et la culture, quoi.
C'est clair. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est vrai. Est-ce qu'on parle du Alfred de Musset?
Alfred de Musset,
Confession d'un enfant du siècle.
Confession d'un enfant du siècle. Ça, je l'ai lu en arrivant à Paris. Et je pense que c'était la meilleure manière d'aborder Paris. Enfin, en tout cas pour art romantique.
Et quand on est romantique, en général, on aime La Confession d'un enfant du siècle, le troisième roman d'Alfred de Musset, écrit quand il avait 26 ans, en 1836. C'est un roman autobiographique qui raconte son histoire d'amour pour le moins mouvementée, faite d'infidélité, de crise et de retrouvailles avec Aurore Dupin, dite George Sand.
La Confession d'un enfant du siècle, ça démarre sur une rupture. En gros, c'est l'histoire d'Octave, qui est dans un repas avec son amante, et il est très amoureux de sa maîtresse. Et en faisant tomber une cuillère sans faire exprès sur le sol, il s'abaisse et en dessous de la table, il voit son amante en fait qui est entrelacée avec la personne à côté. Et quand il relève la tête, il remarque qu'ils font semblant de ne pas se connaître. Et c'est un énorme vertige pour lui parce qu'il le dit dans le livre, je ne pensais pas qu'on puisse mentir en amour. Et personnellement, je partage la naïveté d'Alfred de Musset sur beaucoup de thèmes, et en particulier l'amour. Je pense que j'ai pas dû être construit comme les autres, quoi, parce qu'il y a beaucoup de thèmes où je pars très naïf. Et je me rends compte de ma naïveté aujourd'hui, mais... Et pour moi, en amour, ça paraissait que du kiff, quoi. C'était vraiment, bah, t'aimes, et quand t'aimes plus, tu dis, bon, ben, j'aime plus, genre, bisous. Et c'est pas comme ça que font les gens.
Pas vraiment. Malheureusement.
Clairement pas. Et donc, Alfred de Musset, dans le personnage, Octave, part... Et l'histoire des confessions d'un enfant du siècle, ça raconte comment est-ce qu'un homme, mais du coup comment est-ce qu'une personne, fait face au vertige de la première rupture, du premier amour, quoi. Quelles sont les solutions que tu essayes de trouver ? Il y a la solution de l'isolement, il y a la solution de la débauche, d'aller faire l'amour partout, de se mettre des races tous les soirs. Il y a la solution de trouver un autre amour et d'essayer de se sauver comme ça avec une relation pansement. Et il y a la solution du désespoir. Et c'est vraiment toutes les étapes d'une rupture. Et... pour avoir partagé ce moment où tu réalises que ton premier amour te trompe, ben y a comme un... T'as envie de traverser le temps, d'aller voir ce mec qui certainement s'est arrêté sur un bout de trottoir comme il le met dans son bouquin et de pleurer, et de se mettre à côté de lui et dire... Ouais, c'est vraiment de la merde l'amour.
C'est chaud,
hein. Et trinquer une bonne bière, tu vois. Et Alfred de Musset, vraiment, c'est un des mecs avec lequel j'aurais le plus aimé juste m'asseoir sur un bord de trottoir à Paris à 00h30 avec une bière et de faire... Ouais, juste ça, le... Ouais, ouais. C'est... Ouais.
Et ouais, tu galères aussi.
Ouais,
hein.
C'est la galère, hein, la
c'est
vie.
La galère, ouais.
Et Alfred de Musset a écrit un milliard de choses. En fait, il y a plein de citations d'Alfred de Musset qui me bouleversent. Et c'est purement parce que j'aime cette personne, en fait. J'aime son intensité, j'aime sa manière de rater l'amour, de rater la vie. Ça devait être un mec horrible parce qu'il était tout le temps dans des... Non, mais moi, je t'aime. Et puis, non, je veux pas de ça. Oh non, la vie me fait peur. Et je partage un peu ce truc. Mais il a écrit, par exemple, dans une autre truc qui s'appelle La coupe et les lèvres, il a écrit une phrase toute bête, mais il a écrit « Je ne veux pas mourir ». Et c'est bête, parce que on passe notre temps à l'habiller de poésie, cette phrase, mais juste l'écrire dans un texte. « Je veux pas mourir, moi ». Je trouve ça, t'as envie, tu sais, de le prendre dans tes bras, de faire « Si tu savais comme on est nombreux. »
C'est intense.
« Si tu savais comme on est nombreux à pas le vouloir. » Et juste derrière, il fait « Regarde-moi, monde, regarde-moi, nature, je ne veux pas mourir. » Et c'est dramatique de comment est-ce qu'on appelle, de pathétisme. Voilà, je trouve Alfred de Musset pathétique, mais pathétique dans le beau sens du terme, dans le sens c'est pas grave, il faut s'agiter, il faut faire de son mieux pour que quelqu'un nous entende. Et les confessions sont sublimes.
Est-ce que tu te définirais comme étant un vrai romantique, du coup, toi? Parce que c'est vrai, et tes chroniques que tu fais, c'est vrai que tu parles souvent d'amour, de...
Ouais.
T'es un vrai romantique, Félix.
On va écouter un petit extrait d'une chronique de Félix pour la première RTBF, une radio belge. Une chronique intitulée « Allez, viens » et qui donne une bonne idée du romantisme dont peut faire preuve mon invité. Écoutez.
Alors, voilà. Je sais qu'on se connaît pas, mais je voulais savoir si ça te disait qu'enfin... On parte tous les deux. Ouais, je sais, ça paraît complètement barre, je dis comme ça, mais imagine, on se casse. Là maintenant, à l'autre bout de la Terre, sans se retourner. De toute façon, la Terre est ronde, regarder droit devant soi, c'est un peu comme regarder derrière, non ? Mais arrête de sourire, je suis sérieux, qu'est-ce que tu dirais ? T'as jamais eu envie de balancer ta caisse ? De claquer ta porte ? De gifler ton voisin ? Je sais pas, y a pas des soirs où t'as la tête qui tourne à vide dans ton lit ? Hey, t'as pas des rêves au galop dans la poitrine, toi ? Hey, ils font quoi, tes rêves ? Ils piétinent ? Et ils marchent sur les pieds, ils ont des chaussettes. Allez, allez, viens, on part. On crie, on danse, mieux, mieux, mieux. Viens, viens, on tombe amoureux.
On ferait deux fois le tour du monde parce que le premier, on se serait pas quitté des yeux. On prendrait la voiture, le taxi, le vélo, la trottinette, le bateau. Enfin, on s'en fout, pourvu que ça avance, pourvu que ça gronde, pourvu que ça nous arrache à ce décor morbide qui pue la mélancolie. Et puis, s'il y a des gens qui sont pas d'accord, s'il y a des gens pour pas y croire et jeter sur nos rires leur regard d'oiseau velu et démoniaque, bon, on les emmerdera. Voilà. Je sais même pas si j'ai le droit de dire ça à la radio, mais on s'en fout puisque c'est la dernière. Alors, on les emmerdera, d'accord? On vivra d'amour et de cookies. On récitera des vers uniquement parce que c'est joli.
Après, je trouve que le romantisme a perdu de sa...
De son aura.
C'est pas de l'aura, mais le mot a perdu de sa valeur ou de sa diversité de sens. Enfin, aujourd'hui, on résume le romantisme à ouvrir la porte à quelqu'un et puis écrire un poème de temps en temps, tu vois. Et c'est pas... Le romantisme est à la base, à l'essence, beaucoup plus vaste que juste un amoureux transi qui récite des vers, quoi. C'est effectivement presque... Je pense que le romantique espère de l'amour qu'il le sauve. Et très clairement, je pense, et j'ose espérer que l'amour un jour nous sauvera, tu vois. J'ose croire que quand je tombe amoureux, la personne en face de moi va être plus grande que moi et plus grande qu'elle-même et que cette relation va nous tirer vers le haut et qu'elle soit presque mystique, quoi. Qu'il y ait comme quelque chose... Enfin, je rêve d'un jour rentrer dans un bar, voir quelqu'un et que tout mon corps m'appelle vers elle et que ce soit... The Chosen One, tu vois, mais aujourd'hui j'ai une vision beaucoup plus terre à terre et beaucoup plus... En fait, j'ai comme une sorte de romantisme pragmatique, de romantisme contemporain. Enfin, comment dire, je pense que le romantique pense qu'il faut tomber amoureux et s'aimer toujours. Enfin, il croit à l'histoire d'amour qui va durer ad vitam aeternam et qui va être intense. Et moi, j'ai plus ça. Moi, je crois au romantisme concret du...
Mais c'est mieux, non, du coup?
Ouais, bien sûr, mais ça, c'est une évolution normale d'un précepte, d'un concept. Il faut que les idées évoluent, il faut qu'elles grandissent, il faut qu'elles se nuancent. Et je pense, effectivement, que du coup, oui, je suis romantique, mais un romantique contemporain, quoi. Je suis pas tout le temps en train de faire « Non, mon amour !» C'est pas du tout le cas. Je pense qu'une histoire d'amour doit durer le temps qu'elle doit durer. Et puis, bah, elle va s'abîmer avec le temps. On pourra pas toujours être intense, on pourra pas toujours se déclarer notre flamme tous les soirs et faire l'amour pendant toute la nuit, mais c'est normal et c'est pas grave. Et puis si un jour on s'aime plus, eh ben je suis pour une vérité de bah écoute, c'était très beau et ça restera toujours beau et on sera toujours des amoureux un peu quelque part, mais on peut continuer nos vies et il y a plein d'autres histoires qui nous attendent, quoi. À l'inverse d'Alfred qui lui pouvait pas entendre que George Sand pouvait partir et s'est rendu malade de fièvre, quoi. Et je trouve ça sublime, mais donc ouais, je suis un romantique, mais contemporain, quoi. Beaucoup plus mesuré, beaucoup plus concret, journalier, quoi. Je me suis nuancé. Mais ça sommeille.
Peut-être plus apaisé qu'un Alfred de Musset, pour le coup, quand tu lis les confessions d'un enfant du siècle, tu
peut-être
dis bon.
Plus adulte, ouais. Parce que c'est un vrai enfant. Même si je reste un gros gamin, j'ai compris la notion de... le besoin que l'amour existe pour de vrai, enfin, faut pas rester dans sa tête, quoi. Il faut pas rester avec un fantasme amoureux et le projeter sur l'autre et espérer que ça aille. C'est destructeur et bon, ça fait des jolies pièces, mais c'est destructeur. J'ai besoin, moi, de vérité, quoi.
Top, génial. Merci, Félix.
Merci à toi.
Juste pour terminer, j'ai pour habitude d'offrir un livre
à
la personne que je rencontre.
Tu vas m'offrir quoi?
Je t'ai acheté le rapport de Brodeck de Philippe Claudel. Est-ce que tu l'as lu?
Non, jamais.
Génial. C'est un de mes livres préférés. En gros, le rapport de Brodeck, c'est l'histoire de cet homme, Brodeck, qui habite dans un village en Europe de l'Est. Alors, c'est pas précisé exactement où, mais on comprend que c'est en Europe de l'Est. Et dans ce village, un crime a été commis par tous les hommes du village, sauf par Brodeck.
D'accord.
Et la victime est un homme, en fait, qui venait de l'extérieur, qui était un étranger, que Brodeck appelle l'autre. Et cet homme, en fait, mettait les habitants face à leurs contradictions, à la violence des non-dits, etc. Et ils finissent par le tuer... par peur de l'autre, en fait, par la peur de l'étranger. Et on apprend aussi que Brodeck, en fait, revient d'un camp de concentration, qu'il a été... il a vécu l'enfer, et il est parti là-bas aussi parce qu'on l'a dénoncé dans son village, en fait. Il a servi un peu de bouclier. Bref, et les villageois lui demandent de rédiger un rapport sur l'histoire de ce village pour mieux comprendre ce qui s'y est passé, etc. Et donc ça parle de l'autre, de la peur de l'autre. Ça parle aussi de comment l'écrit et le texte peut sauver une mémoire et mieux comprendre l'autre, en l'occurrence. C'est un super beau livre que moi j'ai adoré, que j'ai lu plusieurs fois. Et donc voilà, je voulais te l'offrir.
Génial, merci beaucoup, ça me fait plaisir. Trop bien. Ça me fait un peu penser à... Enfin, dans un autre registre, mais à l'Idiot de Dostoïevski. Tu l'as lu ?
Non, j'ai pas lu.
Je te le conseille vivement. C'est un peu ça aussi. D'un jeune homme qui met face à la noirceur des gens qui l'entourent. Il sert de miroir un peu, parce que c'est vraiment le mec super sympa, quoi. Et en fait, ils en viennent à le détester, alors que c'est le mec le plus aimable du monde.
Ouais.
Et comme ils n'aiment pas ce qu'ils voient en retour, ils le détestent et ils en vont jusqu'à presque le tuer, quoi.
Mais tu vois, en discutant, je me rends compte aussi que Brodeck, dans tout ce qu'il a vécu d'horreur, et il se fait taper dessus, et en même temps, il est toujours là, il revient, il est hyper philosophe par rapport à ce qui lui arrive. Donc voilà, cette idée aussi d'acceptation un peu de... La vie peut être absurde, mais en fait, on peut trouver le bonheur quelque part aussi, quoi.
Génial, bah, je vais le lire alors, et puis on se dira ce qu'on en a pensé mutuellement.
Tu me diras ce que t'en penses, ok. C'est cool. Merci encore, Félix.
Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Je vous rappelle que Félix est au théâtre, en tournée en France, en Belgique et en Suisse, avec son spectacle Les mots s'improsent. Vous retrouverez Perpa ma page sur Instagram et Twitter. N'hésitez pas à vous abonner et à m'écrire pour me donner vos impressions sur le podcast et surtout pour me parler de vos dernières lectures ou des romans qui vous ont marqué. Je vous rappelle que Perpa ma page est également diffusé tous les lundis à 16h sur la Tsugi Radio sur Internet. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel épisode et d'ici là, très bonne lecture.